quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins,
sur les chemins, sur les chemins,
à bicyclette,
à bicyclette,
à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
Bonjour et bienvenue à tous sur
bonjour,
votre émission.
Bonjour Raphaël.
Donc bonjour et bienvenue à tous sur votre émission. Il est l'heure, Monseigneur, sur Radio G 101.5. Alors aujourd'hui, on a dans le studio, on a Jean-Jacques.
Bonjour.
On a Josiane.
Salut.
Et on a Ricardo.
Oui.
Wow. Il est revenu.
J'ai appris que je manquais trop, donc je suis revenu. Je fais ma rentrée du coup.
Bonne rentrée, Ricardo.
Merci.
Alors, comme à notre habitude, vous souvenez, on a changé la formule. On n'a plus d'année mystère, mais un personnage mystère. Tous les morceaux de musique sont censés vous aider à le découvrir, mais on va en parler dans quelques instants après ce premier morceau de Sœur Sourire.
Oh.
À tout de suite.
Dominique, nique, nique.
Donc c'était Sœur Sourire avec une chanson un peu méconnue maintenant qui s'appelait Les Façades. Alors, Jean-Jacques faisait remarquer que Sœur Sourire était belge, ce qui fait un point commun avec notre invité mystère, enfin notre personnage mystère, pardon. Et
on va pas l'inviter.
Nous le dire. Alors voilà. Alors chers auditeurs, je vous explique pourquoi il rigole parce que bon, elle a vécu 99 ans. Voilà.
Elle. Ah, donc c'est pas Brel.
Signe particulier et c'est la seule que je connaisse à avoir cette spécificité. Elle avait trois nationalités.
Et donc c'était, okay. C'était une religieuse aussi.
Ça vous met sur la piste trois nationalités?
Non.
Bon, voilà. Elle a 99 ans et trois nationalités, dont la nationalité belge. Voilà. On va en parler un petit peu plus en détail. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle était très, très, très respectée. Hein, voilà. Ricardo,
oui.
T'as raté ta rentrée la semaine dernière.
Oui, oui, oui. C'est ce que j'ai appris. J'ai fait, comme on disait petit, j'ai fait l'école buissonnière.
Il a prolongé les vacances. Bon, cela dit, je crois que Ricardo est très studieux en ce moment, donc les vacances, c'est pas trop d'actualité.
Non, non. Ouais. Si, j'en aurais.
Ah, parce que t'as pas encore eu de vacances?
Non, j'ai pas encore eu de vacances.
Wow.
J'appelle pas des vacances parce que j'ai eu une semaine par-ci, une semaine par-là. Je suis resté en France. Et tant que moi, je ne change pas de pays, je comprends bien dépaysé, j'ai l'impression de ne pas prendre de vacances. Je sais que c'est mental, hein, c'est tout con, hein, mais. Bon, donc, fin octobre, j'en aurai peut-être.
Et comment tu peux faire profiter nos auditeurs de ton non-dépaysement, alors? Qu'as-tu fait de beau? Moi, je sais que Jean-Jacques est allé au Mont-Saint-Michel, par exemple.
Je suis passé au Mont-Saint-Michel. Ouais. Ouais. Je ne suis pas resté longtemps au Mont-Saint-Michel.
T'as fondu la poule.
J'avais déjà dû en parler. Ou pas,
oui.
Donc
oui,
je
ne
vais pas répéter quand même, parce que les auditeurs qui sont beaucoup beaucoup à nous écouter, qui ont énormément apprécié notre image,
c'est-à-dire deux
sans Ricardo.
Bon, c'est peut-être ça la recette.
Ils
du secret
ont apprécié le Mont-Saint-Michel,
le secret de la recette.
On est à 500 000 auditeurs, hein.
À 2-3 écartiques près.
Alors donc tes vacances
vacances. Si, bon, finalement on peut appeler ça des vacances, puisque finalement j'ai quand même eu 4-5 jours à Annecy.
Ah,
donc j'ai fait Annecy,
le lac d'Annecy,
c'est magnifique. Ouais. J'ai fait Aix-les-Bains et ensuite j'ai fait Genève.
Ouais. Pas dépaysé du tout le monsieur.
Bah non,
quoi.
Mais Genève, quand
il
tu parles français, tu traverses juste. En plus, quand t'as la vignette, tu la vois, tu mets non, tu traverses juste.
Il est blasé, Ricardo, en fait. En fait, il confond Saint-Georges-des-Gardes, le point culminant du Maine-et-Loire, avec le Mont Blanc. Mais
non, j'adore. En plus, Annecy, c'est super beau.
Saint-Georges-des-Gardes.
C'est le point le plus élevé du Maine-et-Loire.
Et c'est combien l'altitude?
Beaucoup moins que le Mont Blanc.
Et sûrement mètres. Beaucoup moins que le pic à Aix-les-Bains.
Probablement.
Moi aussi, je suis passée à Aix-les-Bains.
Ah ouais, c'est magnifique. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et le lac du Bourget est pas mal non
bah,
plus.
Bah oui,
hein.
Surtout. Et surtout la vue quand on est. Alors, c'est pour ceux qui y vont, c'est pas de la pub. Il y a un point de vue, il y a un autre. Je sais que c'est un restaurant qui a
oui,
un
tout
point.
En haut, tout,
tout en haut,
tout.
Qui a un point de vue sur presque toute la région de Aix-les-Bains et le lac. Oui. C'est magnifique.
Alors,
le belvédère, je crois.
C'est là sans doute que j'ai entendu dire que la reine d'Angleterre, alors je ne sais plus si c'était Elisabeth ou autre, elle montait avec un âne pour aller tout en haut parce que c'était une copine qui était là.
Ah. Voilà, il me semble avoir une photo là-dessus.
C'est une copine qui était là et donc c'était un âne qui venait la chercher pour parce que c'était quand même un peu haut.
Bon, bah, apparemment, elle aimait bien la France parce que je suis allé, c'était le week-end, pas ce week-end, mais le week-end. On raconte un peu nos vies apparemment. le week-end d'avant, j'étais allé au château de Serran visiter et il y avait une photo d'elle et comme quoi elle était venue, elle avait habité là.
Qui
la reine d'Angleterre. Victoria et la reine d'Angleterre, les deux.
Habiter, tu veux dire séjourner.
Séjourner,
oui.
Pardon. elle a pas acheté le château. Ouais. Séjourner, Victoria et les deux. Victoria, il y avait la photo des deux. Et Elisabeth.
Ça veut dire que le château de Serran, il est beau. Hein. Mmh.
Je ne l'ai jamais visité, j'ai un peu honte.
Alors,
ça reste très récent parce que c'est quand même.
Mais le festival d'Anjou, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais
ici ils sont produits au château, j'allais dire, parce que c'est plus château Renaissance, mais c'est magnifique.
Et Elisabeth avait des amis dans un petit château du côté de Segré. Et elle venait parce que c'est en plus ils élevaient des chevaux et tout ça, comme elle avait la passion des chevaux. Et elle venait très souvent.
Elle était angevine en fait.
Elle venait très souvent.
Le riche oncle d'Amérique, on l'attend toujours en revanche. Hein.
Ah ouais.
Bon.
Après Moulin Glorieux, il y a Hitler et ses troupes qui ont séjourné aussi là. Donc.
Oui.
Bon, on peut parler peut-être un petit peu aussi de la journée mondiale Alzheimer à laquelle on vous a invité la semaine dernière.
Elle n'était pas mondiale chez nous, elle était départementale.
Bah oui, mais bon, c'est malgré tout quelque chose qu'il faut célébrer au niveau mondial pour essayer de faire changer les consciences.
Oui.
Ça s'est plutôt pas mal passé, hein, l'ambiance était très plaisante. Et c'est ce pourquoi je veux revenir dessus. On a vu des personnes malades danser,
oui.
On a vu des personnes malades jouer au tennis de table.
Oui.
Et moi, ça me fait bien plaisir. plaisir parce que effectivement, quand on est debout sur ses deux pieds et qu'on danse, on voit pas qui est malade ou qui est pas malade.
Par contre, on a vu des couples où la personne malade était dans le fauteuil roulant et évoluait sur la piste.
Eh ben, évidemment.
Les activités musicales marchent toujours bien avec la maladie d'Alzheimer, oui. Parce que la musique, c'est très connoté, c'est très évocateur. On sait que on a tous plus ou moins des moments où on a une musique associée.
Tout le monde réagit à la
musique. Voilà, et ça oui. Voilà, c'est.
Alors, sur ce point particulier, il y avait une démonstration de Laurent Sanson, qui est art-thérapeute au CHU d'Angers. Ah, okay. Et on l'invitera dans l'émission, si vous voulez bien, pour nous parler des programmes qu'il a développés pour les personnes malades.
Ouais.
C'est la porte des friandises, oui, on veut bien qu'elle vienne.
Bon, bah, message, Laurent. Mais voilà. On va passer au deuxième titre de l'émission, qui va être un titre de Jacques Higelin, que j'aime beaucoup. Et si je vous parle de La Croisade des enfants, ça vous parle un petit peu ou pas?
Il y a des magnifiques chœurs, là.
Bon, eh bien, écoutez, on l'écoute et on se retrouve tout de suite après pour parler à nouveau un petit peu du personnage mystère. À tout de suite.
Chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie. Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Les êtres humains rire aux larmes de leur peur. Enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie. Petit pour les grands, assez grand pour la vie. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands,
Donc c'était Jacques Higelin avec La Croisade des Enfants. Et ce titre, je ne l'ai pas choisi par hasard, puisque notre personnage mystère a beaucoup œuvré pour les enfants. Et je vais vous aider un petit peu plus. Je crois que Jean-Jacques a déjà trouvé le personnage, mais la triple nationalité dont je vous parlais tout à l'heure, c'était la nationalité belge par sa mère, française par son père, et on lui a offert la nationalité égyptienne pour les services rendus en Égypte.
Ah, d'accord.
Donc, un personnage exemplaire. Je veux juste vous citer une petite citation du personnage mystère. On ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive. Il s'agit à chaque instant de faire jaillir une étincelle de joie. Ne l'oublions pas. Souris au monde et le monde te sourira. Bon.
Très belle phrase.
Je crois que c'est clair, hein, il n'y a rien à redire. Mais effectivement, elle a été souvent prise à témoin. Et comme tu le disais, Jean-Jacques, le personnage remettait en place les individus en face
oui,
d'elle.
Oui, elle ne se laissait pas faire.
Alors, elle. Donc maintenant, on sait que c'est féminin. Bon, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de truculence. Elle donnait son avis, mais très humblement, mais par contre, bon.
Elle savait remettre en place.
Elle était rigolote, en plus, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments, enfin, quand, même avec les sujets graves, c'était plaisant. C'était une bonne cliente, comme on dit sur les plateaux.
Mais en l'occurrence, effectivement, quand elle était interpellée par le politique, quand elle était interpellée par des artistes, elle avait toujours la petite réponse un petit peu piquante qui remettait des individus en place, mais noblement.
Mmh. Oui, non, gentiment aussi, mais malgré tout, c'était une pique. Mmh.
Est-ce que tu peux donner des indices, toi, Jean-Jacques, sur le personnage ?
Un petit personnage, par la taille.
Ouais.
Le grand personnage par l'aura.
Josiane, tu peux nous en dire
plus? Non, j'ai pas de signe vraiment qui puisse la faire reconnaître.
Tu avais dit à quel âge enfin d'abord elle n'est plus en vie.
Oui, non,
On l'avait dit.
Tu l'as dit toi-même. T'avais dit l'âge exactement.
Alors, elle est décédée à 99 ans.
Ce qui est extraordinaire.
Voilà.
Et en gros indice, je ne sais pas si je peux le dévoiler, est-ce qu'on avait dit que c'était un personnage religieux?
Eh ben voilà, effectivement, c'était un personnage religieux qui a beaucoup fait pour l'éducation en Égypte, d'où la nationalité qui lui a été offerte.
Là, il manque plus grand-chose pour trouver là.
Ouais. Bon. On va aider les auditeurs, c'est pas Mère Teresa.
Hein. C'est pas une mère.
Mais voilà, donc on la nomme Sœur Emmanuel. Oula, on est en train de perdre Josiane. Donc, Sœur Emmanuel, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Josiane?
Non, rien.
Rien, bon.
Je l'appréciais, effectivement.
Ouais.
Je l'appréciais beaucoup.
Ouais, elle aurait peut-être mérité que le fauteuil Emmanuel, ça soit elle et pas quelqu'un.
Oh, poule religieuse, c'est assez cocasse.
C'est pas mal ça, hein.
J'aurais pas osé la faire, celle-là.
Ne pas mélanger la chair et l'esprit, hein.
Ah, elle est pas mal celle-là aussi.
Bon. Bah oui, effectivement, c'est un grand personnage. Elle a vraiment vécu principalement toute sa vie en Égypte. Elle est venue prendre sa retraite en France bien méritée. Et elle a été aussi bien active dans l'éducation que dans la santé. Donc ça, faut le rappeler, hein, la manière de Sœur Teresa en Inde, l'Égypte lui doit beaucoup, je crois. Et c'est important de le rappeler que tous les pays ne sont pas, se donnent pas les moyens d'éduquer les enfants comme on le vit en France, et que parfois l'aide internationale ou d'individus simplement est bien utile.
Toute sa vie à l'étranger, elle n'a pas beaucoup cotisé du coup. Non, je rigole.
Elle a été prise en charge par sa congrégation.
Ouais, non, mais c'est une blague.
Je crois qu'à 99 ans, elle travaillait encore. En fait.
Donc oui. Du coup, non, mais c'est assez aussi. C'est un message fort, je trouve, qui devrait en Égypte, qui est quand même aussi un pays à consonance arabe ou arabe musulmane. Donc pour elle qui était plutôt chrétienne, donc sans distinction de religion, être aussi présente dans un pays comme ça, c'est un beau message. Et qu'elle soit aussi acceptée là-bas,
oui,
aussi,
tout à fait.
D'être de côté, je trouve que c'est un très beau message, oui.
Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, Ricardo. On va quand même préciser que à l'époque où Sœur Emmanuel œuvrait sur place, on était effectivement sur le monde oriental arabe, mais il n'y avait pas la notion islamique qui peut exister aujourd'hui. Oui. Donc, je pense que le monde arabe était bien plus tolérant qu'aujourd'hui, oui. voire une société en avance sur certains aspects. Et bon, est-ce qu'on va parler de régression ? Je ne sais pas, mais voilà.
De façon arabe et islamique, c'est deux choses différentes.
Ah, très très différentes.
On est bien d'accord.
Non, mais de toute façon, enfin, comment dire, les conflits interreligieux, enfin, je mets des guillemets si les auditeurs le voient pas, interreligieux n'ont pas attendu notre siècle, même non. si il y a une recrudescence, parce que la croisade, par exemple, voilà, la guerre de 100 ans, voilà. Donc quand même,
les Arabes ont envahi la France.
oui, et de l'autre côté aussi, il y a eu les inquisitions aussi.
Poitiers,
voilà, il y a
quoi,
hein. Poitiers avec
ils ont bien fait,
Charles Martel.
Ils nous ont apporté les mathématiques,
tout
ils nous ont apporté plein de choses.
Non, de choses.
Attention, attention, je veux dire, les crêpes, moi les crêpes sarrasin, je sais pas.
À quoi il réduit son acceptation d'une culture. Les crêpes. Non, non, pour dire que donc, malgré ça, donc, décider d'aller s'installer dans un pays quand même qui a une forte communauté d'une autre religion, sans ouais. voir forcément, quelle que soit la religion, hein, sans rentrer oui. dans je trouve que c'est quand même.
C'est courageux.
Ça, c'est courageux.
Mais je crois que ça rajoute un petit peu d'humanité à ce bas monde, hein, quand
ouais,
même.
Hein. Non, mais c'est. Non, mais c'est enfin.
Et je vous propose éventuellement, si vous voulez bien, d'écouter sa dernière interview parce que elle est un petit peu instructive et je pense que ça va mieux décrire le personnage que ce qu'on est en train de faire. On l'écoute tout de suite et on se retrouve après.
Quand vous regardez aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons, vous qui l'avez parcouru sur une bonne centaine d'années, aujourd'hui, quel est le regard que vous avez ?
C'est un regard triste. Il y a trop de violence, il y a trop de pauvres, il y a trop d'enfants victimes. Ça me préoccupe parce que je sens mon impuissance. Je ne fais qu'une chose, que de prier pour eux, mais il faut que l'homme fasse des efforts. C'est ça le problème. C'est un problème qui est terrible quand on voit tout ce qui se passe dans le monde.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, à ceux qui font ce monde ?
J'ai envie de leur dire d'aimer un peu les autres. De ne pas tellement penser à leur propre intérêt. Et de savoir que les autres aussi ont un intérêt. C'est ça qui serait passionnant pour eux. Mais ils ne le font pas.
Vous avez souvent, Sœur Emmanuel, défendu les causes et la cause de la femme, des femmes.
Ah oui, les femmes et les enfants. Ça, c'est mon job. Les hommes qui se débrouillent.
Est-ce qu'on pourrait dire de vous que vous êtes une militante ? Et une militante un peu féministe ?
Ah oui, certainement. Mais comment ?
Vous
la femme et l'enfant. Il faut se battre et on s'est battu et on se battra.
Quand on vous parle d'amour, Sœur Emmanuel, vous dites, moi j'ai eu l'amour absolu, ce que aucun homme n'aurait pu m'offrir sur cette terre.
Et comment ?
Vous n'avez pas de sujet tabou. Vous parlez de tout.
Pour moi, j'ai aimé un homme une fois dans ma vie. Il était très bien, faut dire. Très intelligent. Reposé après, entre les coups. Puis un beau jour, je me suis dit, ah, attention Emmanuel, ça vient un peu fort cette histoire. Alors vraiment, j'étais troublée. J'ai été voir une vieille sœur. Elle m'a dit, écoutez ma petite Emmanuelle, je sais que vous aimez d'aller voir les pauvres et les malades. Allez-y un peu plus, asseyez-vous avec les malades. Ne parlez pas beaucoup, vous, mais écoutez-les. Chez les pauvres, voyez ce dont ils souffrent. Et après, vous direz, mais moi, qu'est-ce que je souffre à côté de ça ? Et tout doucement, votre affaire à vous va disparaître. Et puis vous allez prier la Vierge. J'ai suivi ces deux conseils, et pas tant.
Vous n'avez jamais regretté ?
Ah, jamais. Pas une seconde, pas une seconde, une seconde, une seconde. Jamais.
Vous avez envie qu'on parle de vous en quels termes ?
Je n'ai pas envie qu'on parle de moi, d'abord. Ensuite, si on veut parler de moi, oui, qu'on parle de moi, pour savoir qu'on doit m'aider pour sauver les enfants. Ça, oui, ça, c'est bon. D'accord. Mais parlez de moi, je sais, ça va pas loin. J'ai 99 ans, alors hop, c'est fini. Donc, moi, personnellement, Emmanuel, j'ai pas d'intérêt. Ce qui a l'intérêt, c'est nos enfants. De 70 000 enfants à travers le monde, ça, c'est passionnant. C'est ça qui compte.
Alors, justement, on connaît et on parle beaucoup de Sœur Emmanuel, et on connaît beaucoup moins l'association ASMAE. C'est votre association, une association laïque, je le rappelle.
Ah, c'est très important pour moi, laïque, parce que tu vois, pour moi, personnellement, ce qui compte, c'est pas la religion de l'homme, c'est son cœur.
À votre avis, qu'est-ce qui va déclencher les choses? Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour que les gens comprennent que c'est important?
Je vais leur dire que s'ils pouvaient nous aider, ça serait franchement bien. Parce que nous avons 70 000 enfants, mais il y en a encore tellement à aider que plus nous recevons des chèques, plus nous serons des enfants, nous autres. Les enfants vont être sauvés de la rue, par exemple. Ils vont être sauvés de la misère. Ils vont aller en classe. Il y aura des soins de santé. Tout ça, nous le faisons dans tous ces pays. Nous sommes dans 8 pays. C'est merveilleux ce qu'on réalise. Passionnant.
Sœur Emmanuel, juste avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, maintenant?
Ça va très bien. Je suis très heureuse. Je suis comblée. Je sais que Dieu m'aime. J'essaie de lui rendre son amour. Comme Sainte Thérèse, je reçois d'une main ce qu'il me donne, je donne de l'autre.
Donc c'était Sœur Emmanuel.
Plein d'espoir.
Hein. Pas grand chose à rajouter derrière ça. Et l'humilité du personnage. Enfin, et effectivement, il faut rappeler qu'elle a fondé l'association ASMAE. Laïque, pour une religieuse, moi je trouve ça fort.
Oui, bien sûr.
Et puis, pour moi c'est un modèle de personnage qui montre combien ce qui est important c'est ce que l'on fait et pas forcément ce que l'on est.
En fait, la religion c'était pour elle, mais elle œuvrait dans le...
Voilà. L'amour
hors du religieux.
L'amour et le cœur n'a pas de frontières.
Hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu disais que c'était sa dernière interview?
Sa dernière interview.
Elle, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'elle avait
99 ans.
Ouais. Donc oui, c'était vraiment l'année.
Non, mais quand je dis sa dernière, c'est-à-dire que savoir combien de temps avant son décès, parce qu'elle s'exprime encore bien.
Je crois que c'était 3 mois avant son décès. Mais on voit bien effectivement, elle a plutôt bien vieilli, hein, on va dire ça comme ça.
Elle n'a pas la gouaille qu'elle avait.
On l'excuse.
Évidemment, mais malgré tout, elle s'exprime bien.
Puis c'était
elle cherche pas ses mots.
Hein. Plus intime. Elle n'avait pas d'interlocuteur qui la contrait et autres. Hein. Elle est pas.
Moi, je me souviens de Sœur Emmanuel sur les plateaux. Alors, je crois que ça devait être le Grand Échiquier avec avec Jacques Chancel. Il y avait plein de monde autour, des vedettes de cinéma. Et je veux dire, tout le monde l'écoutait bouche bée. Quoi. Je veux dire qu'elle avait un côté charismatique. Quoi. Il n'y a pas de problème.
Alors, elle a essayé d'être récupérée. Par certains politiques et ils s'en sont mordus les doigts parce que effectivement personne et en particulier j'ai envie de dire dans la politique n'a la capacité de s'aligner sur de tels personnages quand même. Moi je suis bluffé par l'humilité et la sincérité de telles personnes quoi.
Non mais même quand on la voyait, je vois pas qui aurait pu critiquer négativement. C'est-à-dire que
rien à redire.
Alors, on aurait pu dire ok, d'accord, ok, son discours, mais ce que je veux dire, il y avait, on pouvait pas, non.
Oui.
On regardait ça et puis on disait.
Et j'ai envie de dire, c'était peut-être sa force, c'était qu'elle avait le pouvoir d'interpeller sans culpabiliser. Parce que quand on a affaire effectivement à des populations modestes, précaires et autres, elle aurait très bien pu aller dire aux politiques, qu'est-ce que vous faites? Vous faites pas votre travail. Oui. Mais non, elle avait cette humilité de dire...
Elle n'avait pas de ton agressif,
exactement.
Ni rien. Quoi. Hein. C'est ça, ça passait mieux. Hein.
Et c'est là qu'on s'aperçoit que le faire est plus important que l'être, parfois.
Bien sûr. Hein.
Bon, ça nous coupe la chic, ça. Hein.
On est juste très admiratif.
C'est vrai que c'est agréable de réécouter ce genre de choses.
Oui, puis elle s'est pas occupée que des enfants. Elle disait que la condition féminine aussi.
Tu
était...
comprends? Ah, je savais que ça te plairait, ça, Josiane.
Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y avait quand même. Voilà. C'est elle qui a pointé le truc. Hein.
Eh oui, En fait,
je me rappelais pas de ça.
Ouais, mais moi, c'est ce qui m'interpelle, c'est que aujourd'hui, on considère encore les femmes et les enfants comme des personnes fragiles, alors que ils devraient être nos égaux, quoi.
Oui, de second rang. Hein, c'est même plus fragile. C'est vraiment. Alors on en a une, c'est pas le lieu d'en parler, mais t'as eu Simone Veil qui a été quand même une battante pour la condition féminine.
Hein. Oui, il y a eu plusieurs icônes pour la cause féminine.
Non, bah ce jour-là tu nous feras le laïus sur le personnage mystère Josiane, je pense.
J'aimerais surtout l'épisode à l'Assemblée nationale,
quand elle a le
scandale.
Ah oui.
Évoquer les camps de concentration et tout ça, non mais c'est affreux.
Bon, on va essayer de s'alléger un petit peu plus l'esprit. Hein. Jean-Jacques, tu voulais nous envoyer toi dans la stratosphère, je crois.
Ah oui, non mais. De quoi on va pouvoir parler ? On a toujours des choses à dire tout autour de cette table, mais là j'ai découvert quelque chose et je ne savais pas. L'ISS, c'est la station spatiale. Alors il y en a peut-être qui savent ça. Ça a été envoyé, ça a commencé à se faire parce qu'en fait c'est parti en plusieurs morceaux puisque c'est tellement grand. Hein, ça a plusieurs dizaines de mètres d'envergure, hein, et ça a été monté en plusieurs moments à partir de 1998.
Alors on va peut-être préciser ISS, la station spatiale internationale. Européenne. Internationale.
Oui, mais elle est européenne surtout. Mais enfin, non, t'as raison.
Internationale.
Et en fait, moi je savais qu'elle tournait autour de la Terre, mais je ne savais pas qu'on pouvait la voir régulièrement. Et il y a une quinzaine de jours, on se promenait dans un petit parc à côté de Saint-Sylvain, là, à Saint-Sylvain-d'Anjou plutôt, et le ciel était bleu, comme bien souvent tout cet été.
Et pas trop d'éclairage.
Alors, pas trop d'éclairage, mais malgré tout, on regardait, et puis d'un coup, on a vu un point lumineux se déplacer. Tiens, un satellite. Alors, moi, dans un premier temps, je dis, ah bon, non, c'est sûr que c'est pas un avion. Non, puis ça clignotait pas, donc c'était forcément un satellite. Et puis là, il était quand même assez lumineux, très lumineux. Et il s'est jamais éteint, parce qu'en fait, un satellite, c'est pas très haut dans le ciel. C'est une quarantaine de kilomètres, ou un truc comme ça, quoi. Okay. Et très très vite, parce que ça ne brille que parce que le soleil l'éclaire. Parce que c'est pas une étoile, c'est pas voilà. Et je veux dire très très vite ça s'estompe dans le ciel parce que la courbe de la Terre fait que le soleil ne l'éclaire plus. Mais sauf que là ça jusqu'à l'horizon, c'était brillant. Et en fait, je me suis posé la question et je me dis bon, c'est pas Mir,
t'avais pas trop bu.
La station Mir, c'est il y a des années qu'elle est tombée, je me rappelle que Paco Rabanne qui faisait ses prévisions, disait oui, ça va nous tomber sur le coin de la figure et tout ça. Enfin bon. Mais ISS est toujours autour de la Terre et est à plus de 400 km de hauteur et c'est pour ça qu'on le voit traverser le ciel. Alors tous les soirs, en ce moment, il y a deux horaires, hein, vers 8h30 le soir et vers entre 10h30 et 11h. Et donc, je me suis penché là-dessus pour en savoir un peu plus. Et il y a une application qui s'appelle ISS. Ça y est, j'ai mangé le mot. Détecteur. Hein, c'est pas Terminator, c'est Détecteur, qui est très simple, qui est gratuite. Et elle te renseigne sur
la position,
quand elle va traverser le ciel, à quelle heure et de quelle direction, à quelle hauteur, à quelle... Extraordinaire. Et tu as même une alarme qui peut te dire, attention, si tu es branché là-dessus, pouf, ça y est, ça arrive. Il traverse à peu près en 6-7 minutes le ciel, donc tu as le temps de le voir. Hein, que tu sais qu'il va très très vite, parce qu'il est à 400 km de hauteur, ça se déplace entre 27 000 et 28 000 km/h. C'est-à-dire 7-8 km.
Et il n'y a personne pour flasher ça.
C'est complètement fou.
Mais quand il y en aura des PV là.
Mais seulement quand tu lèves le nez, il faut que tu te dises, il y a quand même 6 ou 7 personnes qui sont dedans.
Et oui.
Et de plusieurs pays.
C'est alors national, moi qui suis complètement nulle, quel est le but de cette...
En général, ce sont des expériences scientifiques. Alors, avec des plantes. Ah, sur le corps humain,
comportement parce humain,
sport. Oui, il y a plein de
dans
choses.
Le confinement mais et tout ça.
Il y a fait, aussi des réparations, non aussi,
enfin c'était. Ils sortent pour réparer s'il y a quelque chose.
Pendant un moment, pour moi, c'était l'air d'autoroute en fait, l'air de repos d'autoroute en fait, international, enfin spatial.
Alors régulièrement, Thomas Pesquet est resté 6 mois dedans, mais il est revenu. Mais régulièrement, ils envoient Ils vont recharger. Ils vont recharger. Il y a des gens qui redescendent sur Terre et d'autres qui remontent là-bas. Et régulièrement, ils restent plusieurs mois. Hein,
Il y avoir une sacrée réadaptation quand ils rentrent.
Ben, on sait que, oui, oui.
La alors, pesanteur en fait, et
en
tout
fait,
le reste.
Ce truc-là, c'est vrai que je me suis pas trop penché là-dessus. Je me suis dit surtout, il y a 25 ans qu'elle tourne et c'est la première fois que je m'intéresse à ça. Mais par hasard, j'ai vu ça dans le ciel. Et là, maintenant, tous les soirs. Bon, là, ce soir, je sais pas s'il y aura des nuages ou pas, mais faut le savoir, vous avez une application sur le portable et c'est vraiment très clair, c'est très précis, c'est très simple. Je suis pas rentré dans le détail pour savoir à quoi ça servait. Je sais qu'ils font des expériences, qu'ils font des choses, qu'ils font avancer la science,
bien sûr.
Mais surtout, c'est que systématiquement, vous pouvez savoir que c'est celui-là. Vous pouvez pas vous tromper.
T'as parlé de MIR, la station MIR. Si je demande à Ricardo de compléter le slogan Mini MIR. Non. Il l'a pas. Non. Allez, Josiane, fais-toi plaisir. Tu l'y as pensé, Josiane.
Il était peut-être pas né, hein.
Je sais pas, c'est pas celle qui lave plus blanc que blanc. Non, c'est pas MIR.
Il l'a, Jean-Jacques.
Oui. Mini MIR. Il fait le maximum.
Voilà, Mini MIR, Mini Prix. Mais il fait le maximum. Bon, eh ben ouais, c'est une information intéressante.
Non, ça peut servir parce que, enfin, ben alors, bon, évidemment, en plein hiver, je le ferai peut-être pas, mais à travers votre fenêtre, parce que je regarde à 8h30, puis après on rentre chez soi parce que bon, il fait nuit, donc on n'a pas besoin d'être trop dehors. Et comme je sais qu'il y a un deuxième passage le soir, par contre, vous pouvez pas le voir en pleine nuit. Ouais. Parce que le soleil est complètement derrière la Terre, donc il n'éclaire plus.
Alors, ça m'évoque quand même un sujet qu'on a abordé en fin d'année dernière, la sobriété énergétique, hein, avec la pollution lumineuse. Effectivement, on va y arriver à un ciel clair. Hein. Mais là, au prix des énergies, les collectivités vont devoir faire des économies drastiques d'éclairage.
Déjà, dans les villes, quand ils ont changé les lampadaires et tout ça, parce qu'on disait que c'était très nuisible pour les oiseaux, pour tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de différences avec les nouveaux lampadaires.
Mais il y a encore du boulot.
Les LED et tout ça. Oui, il y en a encore beaucoup.
C'est déjà beaucoup mieux que les gratte-ciel de New York ou même de Tokyo, où les oiseaux en pleine migration avec toutes ces lumières se prennent dedans.
Ouais. Bon, je vous propose de faire une avant-dernière petite pause musicale et puis on va rendre un petit peu hommage à Sœur Emmanuelle avec la chanson Yalla de Calogero. À tout de suite.
On ne retient pas l'écume dans le creux de sa main. On sait la vie se consume et il n'en reste rien. D'une bougie qui s'allume, tu peux encore décider du chemin, de ton chemin. Crois-tu que tout se résume au sel d'entre nos doigts, quand plus léger qu'une plume, tu peux guider tes pas sans tristesse ni
Yalla, yalla, yalla.
Oh, donc c'était Calogero avec la chanson Yalla. Oui, on se disait que on est peut-être écouté en podcast jusqu'en Égypte avec avec le Caire, mais bon, voilà, on espère d'autres.
Et ça leur a fait peut-être plaisir d'entendre
parler Sœur de
Emmanuel,
leur pays,
voilà, et de Sœur Emmanuel,
ouais, à travers
Sœur Emmanuel. Bon, une bonne réputation là-bas. Absolument.
On va essayer de conquérir le monde avec Radio G. Hein.
Bon. On les aura.
Je l'aurai un jour, je l'aurai. Bonjour Jacques. Tu voulais nous parler avec la chronique UFC Que Choisir. Tu voulais nous parler de quoi aujourd'hui?
Alors, je vais vous parler pour adopter un animal domestique. L'adoption d'un animal de compagnie est trop souvent suivie d'un abandon. Cette tendance prend des proportions inquiétantes, surtout pendant les périodes de vacances. Ah, vous allez me dire, là, je vous fais une chronique après les vacances. Mais c'est pas grave, il faudra la retenir pour l'année prochaine.
Et raison de plus, il y a peut-être d'autant plus d'animaux à adopter, pardon, à la SPA.
C'est pourquoi la réglementation se renforce, afin de limiter cette maltraitance. Environ 100 000 animaux domestiques sont abandonnés chaque année, principalement dans les villes, milieux hostiles. Ce phénomène est en hausse, les refuges sont saturés et les bêtes sont en souffrance. Trop de gens achètent ou adoptent sans réfléchir aux contraintes. Coût de l'alimentation, soins vétérinaires en cas de maladie ou de surfécondité, trop de naissances, solution de garde en cas d'absence. L'animal de compagnie est souvent une impulsion, un cadeau, un jouet, une compensation. Ces motivations ne permettent évidemment pas de garantir une relation saine et durable. C'est pourquoi une loi contre la maltraitance animale prévoit diverses mesures pour limiter les conséquences de l'accueil irraisonné d'un animal domestique. La première à s'appliquer est la sensibilisation du nouveau maître à ses responsabilités. Ainsi, tout achat ou don d'animal doit préciser les besoins courants de l'espèce et leur traduction en termes d'espace, mobilité, dépenses prévisibles. Cette obligation s'impose pour toute annonce affichée, imprimée ou publiée en ligne. Dans l'acte d'identification de l'animal, l'acquéreur doit confirmer par une mention manuscrite, qu'il a pris connaissance de ces informations et s'engage à les respecter. À l'avenir, la vente de chiots et chatons en animalerie devrait être interdite et des sanctions pénales plus sévères seront appliquées en cas de sévices ou d'abandon.
Merci Jean-Jacques. Bon, effectivement, je pense que c'est un sujet sensible. Notre petite bestiole, j'ai envie de dire, ce ne sont pas des jouets. Et puis, moi, il y a toujours quelque chose qui m'interpelle, c'est quand on offre des animaux. Un animal, ça ne s'offre pas, ça s'adopte.
Ah bah, puis il y a un enfant.
Et c'est un acte responsable.
C'est pas un jouet. Hein.
On cède à un caprice ça va pas. Quoi. Les conséquences peuvent être...
Moi, je sais que mes enfants, ils m'ont souvent réclamé des poneys, ils n'ont pas eu de poneys. Quoi. C'est interdit.
Depuis que maintenant, t'as une maison avec un grand jardin et tout ça.
Alors, comment te dire?
Ça devient accessible.
J'ai un chien et deux chats et ils sont comblés.
Ah, mais il paraît que les chiens s'accordent très bien avec les races akines. Hein.
Oui, j'en conviens bien, mais non, je crois qu'il serait malheureux le poney chez nous, en fait. Hein.
Voilà. Puis souvent, c'est un animal de compagnie, il a besoin d'avoir quelqu'un avec lui, soit un poney, soit un cheval, soit quelque chose, mais ils n'aiment pas vivre seuls non plus.
Et hein. C'est du temps, c'est vraiment du temps à consacrer les animaux, on se rend pas compte,
mais que
même des poissons, enfin un aquarium, c'est évidemment du temps à passer et c'est pas.
Quand tu vois ce qu'ils appellent les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, les lapins, les ceci, les cela.
Encore le lapin, c'est plutôt conventionnel. Moi, je pensais plutôt aux reptiles ou.
Aussi. Enfin, un lapin en liberté dans une maison, ça te bouffe tout le bas de tes meubles en bois, hein.
Et les câbles.
Faut qu'ils usent leurs dents, hein.
Non, mais...
moi qui voulais adopter un dragon, je vais arrêter du coup.
Oui, Elliot, le dragon.
Il y a souvent des contradictions aussi dans le milieu, c'est-à-dire que bon, bah, avoir un énorme chien avec un petit appartement,
Quand en plus les maîtres ne font pas d'exercice, parce que t'aurais encore un animal, mais tu le sors faire de longues promenades ou en balade et tout ça, il a besoin d'exercice.
Hein. Pas seulement la taille, c'est surtout la race en fait. Parce que je vois, la mode actuellement, c'est d'adopter les chiens. Les chiens
de traîneau, les
les huskies.
Et c'est des chiens qui ont besoin de beaucoup beaucoup se dépenser en fait. Et c'est pas du tout des chiens d'appartement. Mais aujourd'hui, bah c'est un effet de mode.
Déjà, ensuite avec la avec les réseaux sociaux. Un labrador déjà des trucs comme ça, c'est des chiens qui ont besoin d'exercice.
Oui, hein. Voilà.
C'est... Alors on peut même étendre justement le domaine de posséder un chien, c'est des contraintes et qu'il faut les assumer. Par exemple, les déjections canines ou des choses comme ça.
Oui, puis le laisser tout seul dans l'appartement, qu'il aboie, qu'il emmerde de tous les voisins et tout
Absolument. Absolument.
Il est essentiel, effectivement, de choisir l'animal si on en veut un, en fonction de son mode de vie. Évidemment, si on est absent du matin au soir, de 7h à 23h, un chien ne conviendra probablement pas.
Ils supporteront pas.
Ça va le gêner lui parce que il est malheureux, parce que son maître lui manque, voilà. Et ça va gêner aussi les voisins.
Et sans compter qu'il va faire des dégâts dans la maison quand il est tout seul. Hein. Parce que moi, j'ai qu'un chat, mais je te garantis que la nuit, il me fout par terre tous les bibelots. Il n'y a pas un bibelot chez moi qui n'est pas recollé.
Mais cela dit, ouais, après,
ça passe, c'est pas la déco.
J'encourage vivement les gens à avoir cette compagnie animale parce que c'est vraiment un bienfait.
Très important.
Et j'ose espérer qu'on vieillit mieux avec un animal que sans animal.
Moi, je pars. Enfin, de toute façon, je pars du principe. Je fais pas forcément le parallèle avec les enfants, mais enfin, adopter un animal, c'est offrir un foyer. Donc, il faut le penser en ce terme, en fait, offrir un foyer.
Et puis, quand tu vieillis, que t'as moins envie de faire des choses, t'es obligé de t'occuper de l'animal, ou le toiletter, ou lui donner à manger, à boire, ça t'oblige à.
Et ce qui est bien avec les animaux aussi, sans te couper, c'est qu'ils te le rendent, quoi.
Ce qui est bizarre, quand même, c'est que les émissions sur les animaux, moi je me rappelle quand il y avait une chaîne ou deux chaînes seulement, il y avait des émissions comme ça pour les animaux. 30 millions d'amis.
Oui, mais le dimanche, t'as la 8, tout l'après-midi, ils ne parlent que de ça, et c'est à travers un foyer d'accueil. Et justement, ce que tu dis, d'abord, ils viennent voir l'animal. Ils reviennent quelques jours après pour le remettre. Ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Et puis ils signent un contrat.
Une adoption.
Tout à fait. Hein. C'est vraiment très sérieux.
On est d'accord. Adopter un animal, c'est quelque chose de sérieux. On s'engage.
C'est un acte.
Ça nous fait du bien, évidemment, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Voilà. On va écouter le dernier morceau de cette émission. Hommage à Sœur Emmanuelle.
Ah oui, je croyais que c'était par rapport au chien. Je pensais à Aline Renaud. Combien pour ce chien?
Eh bien non,
dans la vitrine.
Non, j'ai pas fait le lien avec Sœur Emmanuelle. Désolé, Josiane. Ce sera pour une prochaine fois. On va écouter tout de suite Grand Corps Malade et Véronique Sanson avec Une Sœur. À tout de suite.
Dire de beaucoup de gens qu'ils te connaissent depuis la naissance. Il y a peu de monde qui te permette de donner au mot famille un vrai sens. Elle était là à chaque victoire et bien sûr à chaque coup dur de chaque époque. Elle peut raconter mon histoire, elle me connaît bien avant mes meilleurs potes. Avec elle, on a inventé des jeux avec des décors invisibles. Elle est près du cœur, même loin des yeux, il y a des liens indestructibles. Il paraît qu'on choisit pas sa famille, moi je la choisirais elle, sans hésitation. Et comme elle écoute parfois mes disques, elle entendra peut-être cette déclaration.
Plus qu'un repère, sans avoir l'air, elle est forte en douceur. Plus qu'un repère, sans avoir l'air, plus qu'un frère, une sœur.
Avec elle, on a déterré des coquillages enfouis dans le sable. On est issus des mêmes paysages. Il y a des liens indéfinissables. Entre élégance, intelligence, elle sait même être forte en douceur. Plus qu'un repère, sans avoir l'air, plus qu'un frère, une sœur.
Donc c'était Grand Corps Malade et Véronique Sanson avec une sœur. Donc je suis content parce que je vais découvrir des chansons à Jean-Jacques.
Et comment on fait pour l'entendre si c'est Sanson ?
Oh là là !
Il a osé, il a osé.
Tu joues les Dalida là.
Bon, on va arriver au terme de cette émission. Est-ce que vous voulez indiquer à nos auditeurs les événements pour les 15 jours à venir ? Moi, il y a quelque chose qui me semble important. Est-ce que vous avez d'autres choses à signaler ?
Je pense qu'on a tous la même.
Alors Ricardo ?
Bah, la journée des aidants.
Oui, c'est effectivement la journée nationale des aidants, le 6 octobre. Et vous avez forcément autour de chez vous des actions de proximité. Je pense par exemple à Angers, le 6 octobre, il y aura le film Une vie démente qui sera projeté aux 400 coups. Donc rapprochez-vous du CCAS, je pense que vous pourriez y être invité et de voir un petit film au cinéma gratuitement, c'est toujours plaisant je trouve.
Parce que c'est gratuit en plus.
Mais sur inscription il me semble, oui.
D'accord.
En général, la plupart des activités sur cette journée-là sont sur inscription ou sur invitation et gratuites, oui.
Et il y aura des actions partout dans le département, on peut le dire. Donc que ce soit à Cholet, que ce soit à Saumur, à Angers ou sur des territoires intermédiaires comme Brissac.
Et comment on prend connaissance de ça ?
Oh bah le plus simple, c'est de se rapprocher du CCAS, d'aller sur le site
sur
de Angers, votre
mais
ville.
Si on veut, il y a ou le site CCAS, de la ville. Cholet-Saumur ou autre.
Allez sur le site de la ville et puis allez voir effectivement ce qui est organisé à l'occasion de la journée nationale des aidants qui est donc le 6 octobre.
Attention.
Et autre point, on va rentrer dans la semaine bleue là très prochainement. Donc là aussi, il y aura beaucoup d'animations. Rapprochez-vous de votre CCAS hein, puisque ce sont les principaux acteurs. Il y a également les clics, mais les gendarmeries sont mobilisées.
Tu nous rappelles ce qu'est la semaine bleue ?
Là, c'est une semaine avec beaucoup de fromage.
De brebis.
Sans nuages.
Et il faut que ça fermente. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est important.
Et je précise, rien à voir non plus avec les footballeurs ou les footballeuses.
Ah oui.
Non, la semaine bleue, c'est une semaine orientée, adressée plutôt aux seniors. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir et de rencontrer les autres seniors à proximité, que ce soit pour après vous inscrire dans un club de marche, un club de boules ou de jeux de cartes. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à faire à ces occasions-là et de renseignements à les prendre. Voilà.
Très bien.
Jean-Jacques.
C'est clair.
C'est clair. Hein.
Ah oui.
Bon bah c'est bien alors.
Beaucoup de choses moi. Moi je suis pas bleu. Hein.
Non. Mais... il est un peu rouge Jean-Jacques. Hein.
Non mais c'est la lumière. C'est la lumière là. C'est pour ça.
C'est vrai.
Bon. Des choses à rajouter, des événements peut-être Jean-Jacques.
des événements au niveau de l'association l'UFC Que Choisir, on a toujours des événements, on fait des formations, on fait des, comment ça s'appelle, des journées des régulièrement, et je crois que j'ai dû en parler la semaine dernière, mais il faut que je fasse attention quand même.
À paradoter, c'est ça.
Non, mais c'est vrai qu'on essaye d'informer les consommateurs, hein, donc je le fais par ces chroniques, bien entendu, et je suis très content de les faire, mais je l'ai choisi parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on peut discuter, oui, pour la défense des consommateurs. On essaye de sortir de nos murs aussi, hein, parce que vous savez qu'on est tous, avec Alzheimer, on est tous dans un grand immeuble avec plein d'associations. On essaye de se rencontrer, pas assez à mon goût.
C'est pas
donc
toujours
je pense
évident.
Que là, il faudrait aussi qu'on organise quelque chose, hein, qu'on en parle, et, qu'on fasse quelque chose de vraiment de ludique.
Convivial.
Donc tu organises un grand barbecue dans ton jardin, t'invites toutes les associations de Maine-et-Loire.
Le barbecue devant l'immeuble, ça serait pas mal.
Non, mais le fait est que c'est
pour
vrai que
devant.
Nous sommes des associations, on va dire, structurées avec des bureaux, mais effectivement, le vrai travail se fait sur le terrain, hein, au plus proche des familles. Donc, c'est pas simple.
Chaque fois que l'on fait des marchés, par exemple, on a quand même quelques contacts avec des gens qui nous connaissent ou qui nous connaissent pas. Mais je veux dire que c'est bien parce qu'on informe, quoi. On voit pas assez de monde, quand même. C'est vrai que les gens sont surtout là pour acheter leurs carottes.
Alors, j'ai peur que dans les semaines et mois à venir, vous ayez beaucoup plus de monde avec le prix de l'énergie qui grimpe. Donc,
c'est des sujets sur lesquels on travaille.
Ouais, je suppose que là, il va y avoir des positionnements difficiles.
L'électricité.
Bon. Chers amis, il est l'heure. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Il est l'heure, Monseigneur. Ce sera la troisième de la saison 4 déjà. Bravo. Merci Jean-Jacques.
Merci Raphaël. Merci à tous.
Merci Josiane.
Merci.
Merci Ricardo.
Merci à toi Raphaël.
À bientôt.
La petite sœur Emmanuel, qui a pas mal d'amis, mais ça c'est vrai, j'ai pas mal d'amis. Et à part ça, faut pas non plus, c'est pas grossir les choses. Faut laisser bien les choses à leur place. Il vaut mieux être petit que grand. Il vaut mieux être inconnu que connu. Il vaut mieux être en silence qu'en parlant. Et à la suite. La vieillesse, pour moi, est une très grande grâce. La vieillesse vous décape, une sorte de choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Et dans la vieillesse, finalement, on se rend bien compte que, comme on va bientôt mourir, bien sûr, le demain est plus important que l'aujourd'hui. Parce que le demain, attention, c'est plus haut que sur Terre. Tout se résume en trois mots. Il suffit d'aimer. C'est la parole de Bernadette de Lourdes. Pour moi, c'est le résumé de ma vie, de mes convictions, de ce que je voudrais faire comprendre. Il suffit d'aimer. Et Saint Augustin, c'est pas n'importe qui, Saint Augustin, père de l'Église. Ama et facultis. Aime et fais ce que tu veux.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes, à bicyclette.
Just wanna tell you 101.5 FM.